OK, on va commencer notre troisième sermon sur l'œuvre de mortification du péché. Alors aujourd'hui, on va voir l'œuvre de mortification du péché n'est efficace que par le Saint-Esprit. Alors on va tantôt y revoir deux versets pour démontrer ça, Ézéchiel 11, 19 et Ézéchiel 36, 26. Dans le premier sermon, on a étudié que John Owen avait développé deux principales thèses à partir de Romains 8, 13b. Sa première thèse, c'était que tous les croyants, y compris les meilleurs, donc c'est sans exception, étaient assurément libérés du pouvoir condamnant du péché. Cependant, il devait se faire un devoir quotidien d'obéir à Dieu qui commande de mortifier le péché encore présent dans notre vieille nature. Et la deuxième thèse qu'il développait, c'était que la vigueur, l'intensité et la qualité de notre vie spirituelle sera directement proportionnelle à l'obéissance à ce commandement de mortifier le péché. Le croyant obtiendra ainsi d'importantes victoires sur le péché, en retirera de très profondes joies et accroîtra sa communion et son intimité avec le Seigneur. Dans notre deuxième sermon, pourquoi je fais ça? C'est parce que je pense qu'au cours du développement de toutes ces choses-là, c'est important de voir ce qu'on a vu, du moins en très bref résumé, de manière à ce qu'on se fasse un plan global de tout l'enseignement. Dans le deuxième sermon, on avait élaboré, clarifié et fortifié la première thèse, qui était que tous les croyants, y compris les meilleurs, étaient libéré du pouvoir du péché, mais cependant, il devait faire un devoir d'obéir au commandement de Dieu qui nous dit de mortifier le péché. Et on avait développé cette première thèse-là, et elle était construite autour de six idées qu'on va juste redire, sans recommenter comme la semaine dernière, mais juste pour qu'on se souvienne un peu de la deuxième leçon. Donc, le sermon nous rappelait que la vieille nature continue d'habiter le croyant. Deuxième idée, que le vieil homme cherche continuellement à actualiser les œuvres de la chair ou de la vieille nature. Le péché qui nous habite non seulement agit toujours, mais tente d'apporter à maturité des péchés destructeurs pour l'âme. Ça, c'est important de saisir ça parce que, dans le fond, un petit péché qu'on laisse aller dans notre vie va prendre de plus en plus de place et le péché a cette tendance à croître et à se rendre au maximum de sa capacité, autrement dit. Il va aller à maturité si on ne le bloque pas, si on ne le tue pas, comme les Écritures nous disent. La quatrième idée, c'est que le Saint-Esprit et notre nouvelle nature nous ont été donnés pour que nous puissions combattre le péché et la convoitise. La cinquième idée, c'était que la négligence de notre devoir de mortifier le péché amènera l'âme à s'affaiblir et à dépérir. Sixième idée, c'était que le Seigneur nous commande d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, après qu'il y ait eu développé chacun de ces six points-là, Owen avait conclu son sermon en avertissant des dangers qui guettent le chrétien, qui affirme connaître Dieu, mais qui continue à ne pas mortifier des péchés connus dans sa vie. Ces deux dangers s'exprimaient de deux façons, ceux envers lui-même et ceux envers les autres. Dans ce troisième sermon-là qu'on commence aujourd'hui, Owen va développer l'idée que seul le Saint-Esprit peut effectuer cette œuvre de mortification du péché et que tous les autres moyens et façons sont vaines, inutiles, voire destructrices. Ézéchiel 11, versets 19 et 20, le Seigneur avait prophétisé, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » On a aussi Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un corps nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, le premier point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que la vanité de chercher des remèdes autres que le Saint-Esprit. Là, John Owen va beaucoup développer l'idée que dans une très grande partie du catholicisme, par la vie moniale, la vie dans la vie monastique, et aussi certaines catégories de protestants qui sont tombés dans ce piège-là, de penser que la mortification du péché peut se faire autrement que par le Saint-Esprit. Alors, Owen rappelle que les catholiques particulièrement ont cherché à mortifier le péché par leurs propres moyens, non basés sur les saintes Écritures. Il ajoute aussi que certains protestants sont tombés dans le même piège et dans la même séduction. Il affirme que les catholiques et certains protestants, qui sont en fait plus coupables parce qu'ils ont reçu plus de lumière évangélique, sont tombés dans le piège du diable en s'imaginant que des moyens tels que les vêtements rugueux portés par les moines ou les moniales, leurs vœux, leurs jeûnes, leurs pénitences, leurs sermons, leurs livres de dévotion, leurs prières répétitives et certaines souffrances auto-imposées et l'ascétisme pouvaient être des moyens de mortifier le péché. Ces choses sont des inventions humaines et sont même dangereuses et nuisibles. Alors, c'est sûr que l'histoire, je me souviens d'une la femme du pasteur Lennoxville que j'avais, avait fait une collection de tous les instruments que les catholiques utilisaient pour supposément se mortifier. Les fouets, les ceintures de silice qu'ils appellent, une ceinture avec des braquettes, et quand tu te la mets sur le corps, les braquettes te rentrent tout partout dans certains outils qui se mettaient dans les pieds pour que ça leur fasse mal aux pieds, supposément que ça l'avait pour effet de détruire le péché dans leur vie. Et là, si on rentrerait dans les détails de ça, c'est épouvantable tout ce qu'ils ont fait. Je me souviens d'un supposément saint chrétien qui s'appelait Alcantara, Saint-Pierre d'Alcantara. Il restait en Italie, puis l'hiver, il gardait ses fenêtres ouvertes de manière à dormir au froid pour accumuler certaines... pour combattre le péché. Les choses qu'ils ont fait, c'est inimaginable. Alors, ce que Owen commence par faire, c'est que le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est que « Or, par le Saint-Esprit, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, oublie ça, c'est de l'hommerie, comme on dirait, c'est des choses humaines, ça vaut absolument rien. La Bible ne nous avertit-elle pas que des hommes sont portés à de pareilles folies? Marc, chapitre 7, versets 6 à 9. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Alors Owen, il donne deux raisons pour lesquelles tous ces efforts sont vains et futiles. Premièrement, ils n'utilisent pas les moyens donnés par Dieu. Alors, tous les moyens qui n'ont pas été donnés par Dieu pour combattre, pour mortifier le péché, ne sont que vanité et justice propre. Ils n'ont aucune efficacité dans l'authentique mortification du péché. Toutes ces auto-vexations, une vexation, d'après la définition dictionnaire, c'est une action de se maltraiter soi-même. Alors, ils étaient très forts sur ces choses-là. Toutes ces auto-vexations recevront cette question de Dieu. Qui t'a demandé de telles choses? Et la deuxième raison pour laquelle ce n'est pas efficace, c'est que parfois, ils vont utiliser des bons moyens, mais ils vont les utiliser improprement. Les moyens légitimes et bibliques, comme par exemple les prières, les jeûnes, les méditations, etc., peuvent aussi ne pas être utilisés proprement. Par exemple, ces moyens peuvent être employés par croyance que c'est le moyen lui-même qui est la cause efficace du changement. Lui, il dit, ils confondent ainsi le filet d'eau, qui sont les moyens, avec la source, qui est le Saint-Esprit, qui utilise ces moyens. Alors, ce n'est pas les moyens en soi qui font en sorte que tu mortifies ton péché, c'est les moyens utilisés par la source. Non pas confondre le filet avec la source, comme il dit. En d'autres mots, il tente de déraciner la présence et le pouvoir du péché en accomplissant des devoirs religieux. Ces choses laissent le vieil homme complètement indifférent et intouché. Autrement dit, parce que suffit de se souvenir, que ceux qui ont déjà lu la biographie de Martin Luther, il était chez les Augustins et eux, il n'y a pas qu'elle doit de la cuillère pour se fouetter, là, puis des spiritures de céleste, puis des affaires à mettre dans les chaussures pour se blesser les pieds, puis toutes sortes d'autres moyens, là, il y en a des centaines. Et il avait vraiment à cœur, il était conscient qu'il était pécheur, il était conscient qu'il aurait aimé enlever le péché de sa vie, mais il n'utilisait pas des moyens corrects. Alors, ça démontre que si tu n'utilises pas les moyens par Dieu, ou si tu utilises les moyens par Dieu improprement, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est la première idée qui cherche à nous rentrer dans la tête. Fort probablement parce qu'à l'époque, déjà, il y avait beaucoup de catholiques et la vie monastique se répandait tout partout en Angleterre et un peu partout en Europe et dans le monde. Et il y avait des protestants qui avaient quand même beaucoup plus de lumière évangélique, qui étaient tombés aussi dans ce panneau-là. Alors, il commence par avertir que si vous cherchez à mortifier le péché par ce moyen-là, par ces moyens-là, ça ne marchera pas, premièrement. Le deuxièmement, la deuxième idée qui avance, c'est seul le Saint-Esprit mortifie le péché en nous. Le Saint-Esprit nous avait été promis à cette fin. On l'avait lu tout à l'heure, les deux passages dans Ézéchiel 11, 19 et 20, qui leur disait « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Et tu avais aussi Ézéchiel 36, 26, 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai, c'est là tout le secret de l'enseignement d'aujourd'hui, je mettrai mon esprit avec un E majuscule en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Owen rappelle que la théologie biblique et trinitaire enseigne que les dons de Christ aux croyants sont toujours communiqués par le Saint-Esprit. Acte 5, versets 30 à 32. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors, c'est sûr que chercher à mortifier le péché, si tu n'es pas vraiment régénéré, oublie ça, ça va être un échec lamentable. Acte 2, versets 32-33, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Alors, c'est vraiment dans le contexte de la Pentecôte. Troisième idée, Comment le Saint-Esprit mortifie-t-il le péché en nous? Ça, j'avoue que c'est la question qui m'intéresse le plus, le comment. Alors, je vois que dans les deux, trois, quatre premières leçons, probablement qu'il y a plus développé le côté, qu'on pourrait dire, théorique, mais basé sur les Écritures, mais un peu plus loin, il va tomber dans le pratico-pratique. Mais je pense que la question théorique préalable est nécessaire aussi. Alors, il suggère qu'il y a trois moyens par lesquels le Saint-Esprit mortifie le péché en nous. Le premier moyen, c'est qu'il produit en nous des grâces en abondance. Le deuxième moyen, il œuvre efficacement sur la racine du péché. Et le troisième moyen, il amène au cœur du chrétien la pensée de la croix du Sauveur. Et comme il dit dans le texte, si vous lisez la troisième leçon, il dit « Je vais développer cette idée-là de la croix du Sauveur beaucoup plus dans les leçons à suivre. » À ce temps qu'il a donné les trois moyens par lesquels le Saint-Esprit mortifie le péché en nous, il veut maintenant examiner un petit peu plus en détail chacun de ces moyens-là. Il produit en nous des grâces en abondance. Ça, c'était le premier moyen. Donc, le Saint-Esprit mortifie le péché en nous en faisant en sorte que nous abondions en grâce et en produisant des fruits contraires à ceux de la chair. Galates 5, versets 19 à 25. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais à partir du verset 22, dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Versets 24 et 25 sont importants. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Les œuvres de la chair et les fruits de l'Esprit sont tellement opposés entre eux qu'ils ne peuvent coexister sans la victoire de l'un ou de l'autre. Alors, ils sont là, c'est comme deux ennemis et ils ne sont pas capables de se sentir où c'est un qui domine ou c'est l'autre. Et si on ne fait pas attention, on peut être facilement se laisser dominer par notre nature pécheresse. Si nous vivons par l'Esprit et que nous marchons selon l'Esprit, le pouvoir de la chair s'atrophiera et mourra progressivement. C'est pas qu'il va, quand on commence à embarquer dans ce que lui dit, que c'est du jour au lendemain, pouf, tous les péchés vont être morts dans nos vies. Mais s'atrophier, quand on parle d'un muscle atrophié, c'est un muscle qui s'affaiblit, il devient de plus en plus faible. Alors la chair, si on se laisse mener par l'Esprit, va s'atrophier et elle va mourir, mais graduellement. Bien important, progressivement, de saisir ça, parce que si on pense que c'est final bâton, comme on dit en québécois, c'est pas final bâton. La deuxième idée, le deuxième moyen qui est utilisé par le Saint-Esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit, lui, œuvre efficacement, mais il œuvre à la bonne place, à la racine du péché. Parce que si on prend un exemple dans la nature, si on cherche à enlever des mauvaises herbes, qu'on fait juste couper le dessus, qu'est-ce que ça fait? Ça repousse tout le temps. Et si on va à la racine, qu'on tue la racine, ça fait quoi? Ça fait en sorte que ça repousse plus. Alors vraiment, l'idée, c'est qu'il dit que le Saint-Esprit, lui, dans son combat, dans sa manière de travailler, il va directement à la racine du péché. Le Saint-Esprit frappe à la racine même du péché et à son habitude. Il affaiblit, détruit et l'enlève. N'est-il pas dit de lui qu'il est un esprit qui consume? En anglais, la version King James est particulièrement je dirais, on voit plus Spirit, en la parlant du Saint-Esprit, Spirit of Judgment and Burning. C'est vraiment l'idée qu'il vient consumer le péché de manière à l'enlever complètement. Dans Isaïe, chapitre 4, verset 4, dans la version Osterwald, « Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion et enlevé le sang du milieu de Jérusalem par l'Esprit de justice et par l'Esprit qui consume. » Voyez-vous, il parle du Saint-Esprit, l'Esprit de justice et l'Esprit qui consume. Quand on parle de quelque chose qui consume, c'est quelque chose qui brûle. Ça brûle le péché. L'Esprit et le péché, ça ne fonctionne pas ensemble. Dans Ésaïe, dans la version de David Martin, le même passage, ça nous dit « Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion » et qu'il aura essuyé le sang de Jérusalem du milieu d'elle, en esprit de jugement et en esprit de consomption par le feu. Vous, lui, il l'a traduit, l'esprit, l'un qui l'a traduit, l'esprit qui consomme, lui, il dit l'esprit de consomption par le feu. Et souvent, l'image qui est souvent utilisée dans les Écritures pour parler du Saint-Esprit, c'est vraiment le feu aussi. Le Saint-Esprit est celui qui brûle le péché jusqu'à sa racine. Le troisième moyen utilisé par le Saint-Esprit pour mortifier le péché, c'est qu'il amène au cœur du chrétien la pensée de la croix du Sauveur. Le Saint-Esprit ramène par la foi, invariablement et constamment, à la pensée du croyant la croix du Sauveur. En faisant cela, il produit la communion avec le Christ et avec ses souffrances, et il nous avertit que cette idée sera grandement développé dans d'autres sermons. Alors, très certainement, c'est que s'il utilise les trois moyens, c'est que un des moyens, c'est le fait de nous ramener à la pensée de la croix de Christ, les souffrances qu'il a subies pour nous, et d'avoir une certaine communion avec ses souffrances, comme ça nous dit, je ne me souviens plus dans quel verset, que ça nous dit que c'était une grâce que de souffrir pour Christ. Je pense dans Philippiens, c'est un peu... Quand tu lis ça pour la première fois, tu dis que c'est une grâce de souffrir. C'est comme... Tu dis, ouais, on m'en passera bien de celle-là. Mais dans le fond, le Seigneur est en train de t'annoncer une vérité, c'est que quand tu souffres pour lui, c'est véritablement une grâce, une faveur qu'il te fait que tu ne mérites pas. La quatrième idée qu'on va regarder, si c'est l'œuvre du Saint-Esprit, pourquoi le Seigneur nous commande-t-il de mortifier le péché? Ça, c'est vraiment une autre bonne question. Le comment... Puis, le semblant de contradiction. Il nous dit que c'est par le Saint-Esprit. Puis, d'un autre côté, il nous dit, il nous commande de le faire. Alors, là, on se rapportait à dire, bien, si c'est par le Saint-Esprit, laissons-les faire son travail, puis mettons-nous pas en travers de sa route. Mais les Écritures nous enseignent les deux. À la fois que la mortification est faite par le Saint-Esprit pour que ça soit efficace, et elle nous commande de participer. Alors, il n'y a pas de contradiction, c'est juste que c'est un complément. C'est un peu comme la sanctification. Il y a certains passages qui nous disent que c'est Dieu qui nous sanctifie, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Puis dans d'autres passages, il dit que sanctifiez-vous, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Y a-t-il une contradiction? Non? Pas de contradiction. C'est que le Seigneur travaille avec sa créature, travaille avec son élu. Donc, Owen traite ici de la question de la relation entre l'œuvre du Saint-Esprit dans la mortification du péché et le commandement du Seigneur à ses élus de mortifier les œuvres de la chair. Ça a l'air contradictoire, je l'avoue. Le Saint-Esprit est le principal agent dans la mortification. Si c'est le Saint-Esprit qui effectue la mortification du péché, pourquoi alors suis-je encore commandé de le faire aussi? Pourquoi ne pas lui laisser faire entièrement le travail? Je n'ai qu'à m'enlever du chemin et laisser l'Esprit agir. Bien qu'il y ait de la vérité dans chacune de ces questions, elles ne sont cependant pas adéquates pour parler de la sanctification dans le sens scripturaire du terme. La croyance que nous n'avons aucune participation dans ce processus est une idée erronée et nuisible spirituellement. Le commandement de mettre à mort les œuvres de la chair n'est pas une suggestion, mais bien un ordre divin. Owen note que ceci n'est pas différent des bonnes œuvres que les Écritures commandent que nous pratiquions et le fait qu'il nous dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire pour qu'on ait des bonnes œuvres. Alors, ça a l'air contradictoire aussi. Il nous dit qu'il met en nous le vouloir et le faire pour faire des bonnes œuvres, puis d'un autre côté, il nous commande d'en faire. Ça a l'air contradictoire à première vue. Alors, ultimement, les bonnes œuvres viennent du Saint-Esprit. Cependant, nous sommes aussi commandés d'en performer. Et vous, on va lire les versets par rapport à ça, Philippiens 2, versets 12 et 13. « Ainsi, mes fils bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ésaïe 26, verset 12. « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. » Romains 8, verset 26. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Voyez-vous, il vient comparer la question des œuvres, et il nous dit qu'il y a beaucoup de versets qui nous disent que c'est Dieu qui les produit en nous, en nous donnant le vouloir et le faire, mais il nous parle aussi qu'il y a d'autres passages qui nous rappellent qu'on est commandé de les faire. Donc, pour qu'il n'y ait pas contradiction, il faut que ça soit une œuvre divine en collaboration avec son élu. Sans ça, c'est une contradiction. Alors, cependant, Dieu nous commande de participer. Le Saint-Esprit ne produit pas en nous l'œuvre de mortification du péché en nous excluant du processus. Il commande aussi notre participation par l'obéissance. Il travaille en nous et avec nous. Il utilise nos compréhensions, nos volontés, nos consciences et nos affections. Son assistance est un encouragement pour faciliter le travail. 2 Corinthiens 7, verset 1. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Voyez-vous, ici, il met la responsabilité du côté de l'homme. Tu as toujours les deux côtés, le côté d'intervention divine puis le côté de participation humaine. C'est comme exactement comme la doctrine de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité de l'homme. C'est comme deux tracts de chemin de fer. Ils sont parallèles, mais ils ne se rencontrent pas. Comme il disait dans un sermon souvent, ils vont se rencontrer juste au pied de Dieu. Mm-hmm. Alors, Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, on est rendu dans la troisième leçon, et à partir des autres leçons, il va commencer à rentrer un petit peu plus dans les détails. Moi, j'avoue que c'est la partie qui m'intéresse le plus. Mais il reste que le côté théorique est nécessaire avant d'entrer dans ces détails-là. Quelles sont les applications qu'on peut faire sur la leçon d'aujourd'hui? La première, c'est de prendre conscience que le pécheur non régénéré ne peut pas par lui-même mortifier le péché d'aucune manière. Comment que ça s'essayera? Ça ne marchera pas. Je pense que ce que ça fait, c'est que ça fait exactement l'inverse. On dirait que ça le stimule. Ça le stimule. La deuxième application, toute tentative de mortification du péché par le pécheur régénéré sans le Saint-Esprit, même s'il utilise les moyens prescrits par Dieu, n'est qu'arrogance, confusion, frustration et déception. Comment on dit, le le chrétien qui s'essaye par lui-même de vaincre quelque péché que ce soit dans sa vie, s'il ne le fait pas avec le Saint-Esprit, c'est sûr, comme des fois on dit, je travaille là-dessus, je vais changer ça. Dès qu'il y a le mot « je » dedans et qu'il n'y a pas l'esprit avec, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Troisième application, le Saint-Esprit est le maître d'œuvre dans la mortification du péché chez le croyant. Cependant, notre participation est commandée et exigée. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Alors, c'est l'idée que Dieu va accorder des grâces. Si on les utilise, ça va nous permettre de vaincre le péché. Puis plus on utilise les grâces qu'il nous donne, plus il est disposé à nous en donner d'autres et à avancer. Moins on les utilise, plus on laisse la chair obtenir ses victoires. Et Dieu va restreindre ses grâces à ton égard parce que tu n'utilises même pas ce qu'il te donne. Alors, c'est important de réaliser ça parce que John Owen disait qu'à son époque, déjà, la mortification du péché se pratiquait peu au 17e siècle. Au 21e, je pense que ça a fait du chemin encore plus que qu'à son époque. Alors, gloire soit rendue au Dieu trinitaire pour l'œuvre de mortification du péché. Amen.